Le duc de Nemours a été accusé d'avoir mené des conspirations qui sont tant de crimes de lèse-majesté contre nous, notre couronne et la chose publique dans notre royaume. Extrait de l'acte d'accusation contre Jacques d'Armagnac.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 4 août 1477, la tête de Jacques d'Armagnac était tranchée à coups de hache par le bourreau devant les Halles de Paris. Comment en est-on arrivé à ce qu'un grand du royaume puisse être exécuté en public de cette manière? Pour comprendre cet événement, il faut se replacer à la fois de la part de la monarchie française sous Louis XI, avec la constitution progressive d'un véritable État royal, qui avait d'ailleurs commencé avant Louis XI, bien entendu, et d'autre part, une noblesse qui souvent souhaite vouloir être présente auprès du pouvoir, qui attend de la monarchie qu'elle distribue les grâces et les bienfaits et qu'elle fasse participer les grands à la conduite des affaires du royaume. Or, la construction de l'État royal et ses ambitions des grands vont se heurter, et d'ailleurs, l'affaire est appelée à durer jusqu'au milieu du XVIIe siècle environ. Alors d'abord, qui est Jacques d'Armagnac? Jacques d'Armagnac est né en 1437. Il est le petit-fils de Bernard d'Armagnac, personnage extrêmement important qui, sous le règne de Charles VI, avait participé à la conduite des affaires du royaume et à la guerre civile qu'il avait opposée aux Bourguignons. C'était la querelle entre Armagnac et Bourguignon, les seconds servant plutôt les intérêts de la couronne anglaise. Et Jacques d'Armagnac avait été un homme qui, au début du règne de Louis XI, à partir de 1461, avait eu des responsabilités indéniables. Ainsi, il avait été chargé de mener des opérations militaires en Roussillon en 1463, au moment où le Roussillon était disputé entre la monarchie française et la monarchie d'Aragon. Mais l'homme a des ambitions et, comme tout grand du royaume, il souhaite participer activement aux affaires de celui-ci. C'est pour cela que en 1465, il avait participé à ce que les historiens appellent la Ligue du bien public, qui rassemblait une série de grands nobles qui souhaitaient faire pression sur Louis XI afin d'obtenir des avantages et une participation réelle au gouvernement. Or, dans un premier temps, la Ligue du bien public est donc un échec. Et Jacques d'Armagnac avait juré à nouveau fidélité à Louis XI. Celui-ci, en bon monarque, avait accepté cette nouvelle prestation de serment et il avait repris contact avec Jacques d'Armagnac et il lui avait d'ailleurs donné des activités et des charges extrêmement importantes puisqu'il lui avait en particulier donné la gouvernance de la capitale, ce qui n'est pas rien. Or, le problème, c'est que à partir de 1474-1475, eh bien, Jacques d'Armagnac va à nouveau entrer, estimant qu'il a été mal récompensé de ses services rendus à la couronne, dans un processus de complot pour mettre, non pas évidemment à bas le monarque, parce que la monarchie et la personne du roi est sacrée et la question ne se pose pas vraiment, mais du moins le contraindre à mieux partager le pouvoir. Donc, il y a eu l'opposition de la Ligue du bien public, et il y a donc une seconde opposition dans ces années 1474-1475. Désormais, le roi est décidé à réagir. À partir de février 1476, Louis XI décide de l'arrestation de Jacques d'Armagnac. Il va envoyer une troupe commandée par son gendre, Pierre de Beaujeu, et cette troupe va assiéger Jacques d'Armagnac dans une forteresse qu'il a auprès du Carla en Auvergne, et la forteresse étant tombée, Jacques d'Armagnac est arrêté. Le 31 juillet 1476, Jacques d'Armagnac est donc emprisonné à Paris, à la Bastille. Le 22 septembre, le roi désigne le chancelier Pierre Doriol et 17 commissaires pour mener l'enquête et les interrogatoires qui débutent le 7 novembre. Tout ce processus judiciaire nous est très bien connu parce que, à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, nous avons un document d'environ 500 feuillets qui nous relate le procès, les interrogatoires, l'exécution de Jacques d'Armagnac. Le 14 décembre donc 1476, le chancelier rend son rapport et propose que le procès soit porté devant le Parlement de Paris. Louis XI va se donner un grand mois pour réfléchir. Et le 27 janvier 1477, il accepte le principe que ce soit les parlementaires de Paris qui, réunis en haute chambre, eh bien, jugent le félon. À partir de là, le processus judiciaire entre dans sa dernière phase. En effet, les nouveaux commissaires qui ont été nommés par le roi et les parlementaires entrent en procès à partir du 4 juin. Le procès est présidé par le gendre du souverain, Pierre de Beaujeu, celui qui déjà avait arrêté Jacques d'Armagnac. Le 22 juillet, le roi adresse des lettres au Parlement pour qu'il revienne à Paris, parce que dans un premier temps, le procès avait été externalisé à Noyon. Et enfin, le 4 août, la sentence est rendue. Cela est rendu par la voix de Pierre Doriol, le chancelier, c'est-à-dire le second personnage du royaume dans l'ordre protocolaire. La sentence est lue au Palais Royal, près dans l'île de la Cité, et dans la foulée, sans qu'il y ait possibilité d'ailleurs de demander éventuellement une grâce, Nemours est amené devant les Halles de Paris et il est décapité. La tradition a rapporté un événement qui sans doute est totalement faux, mais on a tellement donné à Louis XI une légende noire que cette tradition rapporte que les deux enfants de Jacques d'Armagnac avaient été placés sous le billot pour que le sang de leur père éclabousse sur eux. Nous sommes là vraiment dans la légende noire du souverain. Il est fort probable, évidemment, que ça n'ait jamais eu lieu. Alors, que retenir de cette affaire ? D'abord, nous sommes au cœur, effectivement, d'une contradiction dans la répartition du pouvoir. À partir du moment où, et déjà depuis le XIIIe siècle, le XIVe, et ça se développe au XVe siècle après la crise de la guerre de Cent Ans, l'État royal se construit, que l'autorité royale s'affirme. Eh bien, la grande noblesse, qui avait l'habitude de participer aux affaires et qui s'estimait d'ailleurs légitimement apte à gouverner le royaume avec le souverain, eh bien, c'est une contradiction dont le nœud est difficilement résolvable. En effet, ces grands du royaume, comme Jacques d'Armagnac, ont le sentiment qu'il est de leur devoir de demander ce partage du pouvoir. Et quand nous regardons l'histoire politique du royaume tout au long du XVIe siècle et jusqu'à la fronde du milieu du XVIIe, c'est bien un enjeu. C'est ce que l'historienne Arlette Le Bigre avait appelé le devoir de révolte, c'est-à-dire le devoir de se soulever au nom des droits de la noblesse. Or, la monarchie française l'accepte de moins en moins. Et Louis XI a voulu sans doute faire, et ce n'est pas le seul, un exemple en frappant à la tête, si j'ose dire, Jacques d'Armagnac. On peut dire véritablement que le crime contre le roi, la lèse-majesté, constitue dans ce procès l'élément clé qui va aboutir au drame personnel de Jacques d'Armagnac. Mais il est vrai que Louis XI, tout au long de son règne, a œuvré avec patience, détermination, pour imposer progressivement l'autorité de la couronne. On peut estimer que le caractère exemplaire de ce procès explique pourquoi Louis XI a fait faire des copies du procès et de la sentence pour faire véritablement, dans tout le royaume, un exemple.